Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église, merci d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien que nous allons consacrer aujourd'hui à un événement qui a lieu la semaine prochaine, la 16e Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, les 26, 27 et 28 juin. Pour évoquer cet événement et présenter le programme de ces trois journées, je reçois aujourd'hui Agnès Arter, membre de l'organisation de l'Université chrétienne d'été de Castanet. Bonjour madame, bienvenue.
Bonjour.
Également présent dans notre studio, deux des intervenants de cette 16e édition, Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et le père Michel-Martin Prével, membre de la communauté des Béatitudes. Bonjour et bienvenue aussi à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais d'abord donner la parole à Agnès Arter pour qu'elle précise la vocation de l'Université chrétienne d'été de Castanet, ce que sont ses objectifs et ce qu'elle propose à ceux qui y assistent. Je rappelle au préalable que cet événement a été créé en 2008 par le frère Jean-Marc Guéraud.
Oui, il s'agit de prendre, comme le nom l'indique, un petit temps à l'approche de l'été pour un peu de recul, un temps de réflexion, un temps de partage. Il permet de faire se rencontrer la réflexion en fait un petit peu universitaire, les gens qui réfléchissent densément avec les personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas trop le temps ni l'habitude. Et il y a un enrichissement mutuel qui est voulu pour qu'on confronte à la fois une réflexion théorique et des réflexions pratiques. Et c'est une richesse réciproque de la part des conférenciers et des participants.
Ça se passe à la Maison de la Fraternité, à Castanet, hein. Je ne l'avais pas précisé, mais c'est important que les gens sachent où ils doivent se retrouver. Plusieurs intervenants extérieurs, comment vous les choisissez ou comment vous les contactez?
En fonction déjà du thème que nous fixons, le thème qui évolue bien sûr au fur et à mesure de nos réflexions des années précédentes, qui s'enrichit aussi des demandes des participants parfois. Et puis, on a aussi finalement nos réseaux. On parle de communauté et réseau, on est un petit peu dans le même domaine déjà aujourd'hui.
Comment sont organisées ces trois journées et par qui? Alors, l'équipe peut-être qui travaille avec vous?
Tout à fait. Donc cette association regroupe un certain nombre de bénévoles. Ça s'organise sous forme de modules, 6 modules relativement indépendants mais qui se connectent, c'est-à-dire qu'il y a des chassés-croisés et dans la participation même quelquefois des conférenciers qui écoutent un peu ce qui a été entendu de par ailleurs. Sous la forme suivante, déjà un apport un peu dense d'une conférence de 50 minutes à peu près, puisqu'il faut que ça puisse être au format radio diffusé, puisque je précise que c'est enregistré et radio diffusé après par radio présence. Ensuite, un petit temps de débat en groupe sur la base de réflexions qui ont pu être proposées par le conférencier ou des questions qui sont soulevées par les participants. Et suivi d'un petit moment de convivialité où tous les groupes se retrouvent. Et on finit par mettre tout ça en commun avec le conférencier, soit pour poursuivre la réflexion, soit pour ouvrir vers d'autres questions.
J'ai vu que vous appelez ça des discussions par carrefour. Qu'est-ce que ça veut dire par carrefour?
C'est les petits groupes que j'évoque, une dizaine de personnes, parce qu'on sait très bien que la parole circule plus facilement et de manière plus libre quand on est en petits groupes que collectivement. Donc on a la richesse à la fois des petits partages et du débat collectif à la fin.
Autre chose importante à préciser, il me semble, ça s'appelle bien Université chrétienne d'été, ce qui veut dire que les intervenants, ou le public d'ailleurs bien sûr, peuvent être catholiques, protestants, orthodoxes.
Tout à fait, et surtout avec un esprit d'ouverture. On a même eu quelquefois des conférenciers qui n'avaient pas de lien du tout ecclésiaux, qui n'étaient pas croyants, parce qu'on considère que l'Église a sa part pour pouvoir ouvrir la réflexion pour toute la société. Et on fait très attention justement à cette diversité d'intervenants.
On peut y assister gratuitement. Une chose tout de même, il est préférable de s'inscrire au préalable.
Oui, ça nous facilite la tâche puisque la salle peut accueillir jusqu'à 100 personnes à peu près. Mais suivant le nombre de personnes, le nombre de carrefours n'est pas le même. Ça suppose pour nous de nous organiser.
On s'inscrit sur le site, hein, sur votre site
Par un mail.
Par mail.
Par mail ou par éventuellement téléphone, sachant que même si on n'est pas inscrit, on peut venir.
Bien entendu, voilà. Et donc, vous pouvez accueillir jusqu'à 100 personnes. Il y a de la place. Il y a un thème particulier chaque année. Donc, cette année, vous avez choisi une humanité, des communautés. Vous pouvez peut-être rappeler les thèmes des années précédentes. Ça donnera une idée des sujets qui sont abordés.
Alors, je reviens un petit peu en arrière. L'année dernière, c'était autour du corps. Ceci est mon corps. L'année précédente, servir l'humain. Le bonheur, c'est par où? Traverser l'épreuve, le pouvoir et le servir, construire l'avenir, et j'en oublie. mais ça vous donne un petit peu une idée des sujets qui peuvent être abordés.
Comment vous les choisissez, ces thèmes? Est-ce que c'est l'actualité parfois qui vous les impose ou pas forcément?
Alors déjà, elle est choisie un an avant. Donc, ce qui veut dire que l'actualité, quelquefois, nous rattrape. L'actualité, bien sûr, a un support pour réfléchir au sujet. Mais comme je vous l'ai dit aussi, c'est aussi les intuitions des uns ou des autres, les réflexions qu'on a pu avoir à la session précédente ou des idées qui nous ont été proposées.
Cette année, donc, une humanité des communautés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre que nous appartenons tous à la même humanité, même si nous sommes tous différents, ou est-ce que c'est plus large que ça?
C'est une bonne façon de présenter le sujet. Je pense que ce qui nous a beaucoup orientés, là, cette fois-ci, c'est le constat d'avoir une société de plus en plus fracturée, un sentiment de repli sur soi, des communautés un peu individualistes, parfois dans leur comportement. Et on s'est interrogé sur à la fois l'aspect négatif que ça peut avoir, mais l'aspect aussi positif de croisement. Je pense qu'on est à l'heure aussi des réseaux sociaux qui marquent un petit peu le besoin de se retrouver autour de sentiments d'appartenance. Et tout ça questionne, bien sûr, notre société.
Mais vous savez qu'on parle de communauté sur les réseaux sociaux. Mais quand on parle de communauté, on ne parle pas de groupe, c'est assez curieux d'ailleurs. Souvent, on parle de communauté, mais c'est des communautés qui sont autour d'une personne ou d'une passion. Enfin, voilà, donc c'est assez curieux. Et donc, ce terme de communauté, effectivement, il mérite d'être questionné, comme on dit aujourd'hui. Donc, les trois journées des 26, 27 et 28 juin vont se décliner autour de quel sujet, avec quels intervenants?
Alors déjà, effectivement, on a cherché quel type de communauté auquel on pouvait appartenir. La première qui tombe sous le sens, c'est la famille, avec ses différentes déclinaisons. Celle du travail, parce qu'elle porte sur beaucoup de temps et beaucoup d'implications.
Et souvent, on passe plus de temps avec ses collègues qu'avec sa famille, finalement.
Tout à fait.
Ou ses amis.
Après, bien sûr, puisqu'on est dans le cadre de la foi chrétienne, on s'est posé des questions sur la communauté paroissiale. On s'est posé des questions aussi sur un autre choix de vie qui est la communauté religieuse, avec ses interactions quand même avec les communautés alentour. Et puis, on a aussi toujours le souci de s'appuyer sur une réflexion biblique à un moment ou à un autre. C'est le cas avec les premières communautés chrétiennes sur cette thématique. Et puis, on prend un peu de recul ou de réflexion aussi sur une réflexion plus, quelquefois, sociologique, philosophique. Là, en l'occurrence, c'est un philosophe qui va ouvrir le débat de cette session.
Alors, parlons justement de ce premier module. Vous parlez de module, hein, je crois.
Tout à fait.
Voilà, premier module, mercredi 26 juin de 15h à 18h. Eh bien, c'est Robert Redeker, vous avez invité. Alors, j'en suis très heureux parce que je l'ai reçu il y a deux semaines sur un sujet assez différent encore que celui que vous allez aborder donc avec lui mercredi prochain.
L'homme face à la crise de son humanité. Alors, j'ai envie de dire, je ne vais pas dévoiler, puisque déjà, je ne connais pas ce qu'il va dire, pour la preuve qu'on essaye de laisser, et ça c'est important, aux conférenciers, la liberté de leur intervention. Et ça nous a été d'ailleurs précisé une fois comme étant apprécié. On donne un peu la tonalité, mais après, c'est à chaque conférencier de faire son apport. Et c'est justement après le débat qui permet de s'enrichir ou de corriger, de compléter ce que l'on aurait souhaité discuter.
Donc le thème qui a été retenu pour cette conférence, enfin le titre en tout cas, l'homme face à la crise de son humanité, c'est Robert Redeker qui l'a décidé lui-même.
Tout à fait. On en discute éventuellement après pour la présentation et la synthèse qui se retrouve sur le dépliant, mais effectivement c'est lui au départ.
Le même jour, donc le second module de la journée, de 19h30 à 22h30 le 26 juin, c'est Sœur Marie Benoît. Alors là, vous allez parler de la vie conventuelle, si j'ai bien compris.
En partie, mais avec une communauté très ouverte et qui a un rôle pastoral important et qui va aussi nous parler du lien avec justement la commune dans laquelle elle est implantée. Et toujours, on verra bien, puisque je ne saurais pas vous dire comment elle souhaite l'aborder.
Le titre quand même est assez explicite, je trouve, la vie religieuse contemplative et
apostolique.
C'est Sœur Marie Benoît, elle appartient à quelle communauté religieuse?
La communauté de Marie, Mère de l'Église.
Le troisième module, le 27 juin à 15h, de l'Église à la maison, trois petits points, à l'Église au large. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre. C'est Annie Laverdure donc, qui va donner cette conférence.
Oui, elle va parler des premières communautés chrétiennes, donc de ces premières communautés qui effectivement se rassemblaient dans une maison, d'où le titre, et qui vont petit à petit élargir leur champ. Et elle va donc nous expliquer un petit peu comment les premières communautés vivaient et se sont implantées progressivement.
J'ai vu qu'elle est présentée comme étant animatrice biblique.
Oui, c'est une personne qui a une grande formation biblique et qui anime plein de petits groupes bibliques.
Le même jour, donc, à 19h30, alors cette fois-ci, c'est un pasteur, enfin une, je ne sais pas d'ailleurs comment on doit dire, Marie-Pierre Courneau, qui va présenter une conférence, « La vie de paroisse riche et délicate ?» Point d'interrogation.
La vie paroissiale est quelquefois très complexe. Elle rassemble des gens très divers. Et il faut faire vivre cette communauté autour bien sûr, de celui qui nous rassemble.
Voilà, donc ça c'est pour la journée du 27 juin et enfin la troisième et dernière journée. Alors là, on va pouvoir parler de nos deux autres invités. Michel Martin-Prével anime une conférence sur le thème « La famille fragile et indispensable » le 28 juin de 15h à 18h. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite avec vous, Michel Martin-Prével. Famille fragile et indispensable. Indispensable sans doute, fragile pourquoi ? Est-ce qu'elle n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui, mais peut-être jamais été autant indispensable ?
Oui, alors il ne faut pas dramatiser. De fait, la famille aujourd'hui, on sait, elle est à la fois attaquée, elle est aussi très diversifiée, elle est souvent incomplète, elle est quelquefois un peu malade, etc. Donc on peut y mettre beaucoup d'adjectifs. J'ai préféré le mot de fragile parce que c'est dans sa nature plutôt qu'elle est fragile, parce qu'on la croit plus forte qu'elle n'est en réalité. Et on est souvent très, très, très surpris quand sa propre famille connaît justement tous ces désordres, ces difficultés, etc. Mais c'est un peu comme ça depuis l'origine de l'humanité. On voit dans la Bible, par exemple, les familles bibliques, il s'est passé des quantités de choses, y compris la Sainte Famille, qui n'était pas du tout si préservée que cela. Et donc, les familles sont fragiles, et je dirais que ça tient sans doute à ce que, dans la nature humaine, l'homme est un animal fragile, tout simplement. Mais c'est aussi parce que cette belle mission qui est la sienne, qui est de s'apporter beaucoup d'affection, de soutien, de solidarité, etc., ça, c'est par définition fragile. Alors, on le retrouve aussi au niveau d'une société. On voit comment la politique est le siège aussi de beaucoup de fragilité. Ça veut dire aussi que si elle est fragile, c'est aussi parce qu'elle ne peut pas être parfaite. Et on attend d'elle beaucoup trop et beaucoup plus que ce qu'elle peut donner. Et c'est ça qui fait qu'on peut peut-être la qualifier de fragile. Par contre, indispensable, parce que là, ça, c'est plus que jamais vrai. Je dirais que c'est le dernier bastion aujourd'hui auquel les gens croient encore. Voilà. Parce que toutes les grandes communautés à des échelons plus larges sont en crise. La communauté éducative, la communauté paroissiale, en fait, toutes les communautés passent par des crises.
Même la communauté nationale, d'ailleurs.
Et la famille aussi passe par une crise. Mais à celle-là, on s'y raccroche. Parce que c'est comme le dernier, c'est la plus petite. On dit que c'est la brique, un peu, la brique.
C'est la cellule de base dans la société.
C'est la cellule de base de toute la société. C'est pour ça que plus que jamais, elle est indispensable. Voilà. Alors celle-là, il faut la sauver.
Vous avez parlé de bastion. On pourrait comprendre ça comme forteresse. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt utiliser le terme de refuge ?
Alors, refuge, c'est un peu négatif parce que ça veut dire qu'on ne croit plus en rien d'autre. Mais c'est peut-être au plus un bastion au sens où là, il y a quelque chose qui, parce que c'est indispensable,
il y a quelque chose à défendre, ça veut dire.
Ouais. C'est à préserver, voilà. C'est aussi parce que c'est fragile que c'est à préserver. Et c'est parce qu'on y trouve là un type de relation qui est tout à fait, non pas totalitaire, mais totalisante. Parce que c'est tout l'homme qui s'y retrouve, corps, âme et esprit. Parce que ça a une valeur sociologique, mais ça a une valeur aussi très psychologique, la vie familiale, ça construit des enfants, ça fait énormément de travail. Et puis, c'est ce lien auquel on croit beaucoup, surtout dans le christianisme, qui s'appelle l'amour. Je crois que la famille, elle est là pour l'amour, elle est là pour développer, construire aussi des relations qui s'appellent des relations d'amour, des relations fraternelles aussi. Voilà, c'est tout ça qui fait que elle est attaquée en même temps, parce qu'il y a des idéologies qui ne croient pas à la famille et qui pensent au contraire que la famille est la source de tous les maux, à commencer par André Gide.
Oui, j'ai fait sortir la fameuse citation.
Le XXe siècle, c'est « famille, je vouais ». Et Jean-Paul II a dit le contraire, ou presque. Il a dit quelque chose comme « la famille, c'est la route de l'humanité ». Donc il y a des enjeux très importants sur la famille.
Alors, je parlais de refuge tout à l'heure, mais quand même, le premier rôle de la famille, est-ce que ce n'est pas d'abord, avant tout, de protéger ? Surtout dans une société comme la nôtre où bon, on se sent agressé par beaucoup de choses.
Oui, protéger, mais pas que protéger parce qu'il faut aussi construire. Et donc il faut aussi construire dans un monde qui ne sera pas facile pour ceux qui en y éduquent. Et pour ceux qui sont liés par des liens matrimoniaux, etc., dans la famille, c'est aussi se nourrir dans une vie de couple pour pouvoir aussi être ailleurs, donné dans d'autres types de communautés.
Dans la présentation de votre conférence, il y a des sous-thèmes. Hein. Le premier, concernant la famille, rêve des jeunes ou galère pour d'autres, la famille traverse des défis nombreux. Quels sont ces défis pour vous ?
Eh bien, d'abord, il y a la pérennité qui repose sur une vertu auquel il n'y a plus que les commerçants qui croient cette vertu, c'est la fidélité. Vous savez, on a des cartes de fidélité, mais dans la famille, on voit que les fidélités se sont un peu amenuisées au minimum. D'abord, la fidélité du couple, mais même la fidélité entre parents-enfants. Il y a énormément de parents qui ne voient plus leurs enfants, des enfants qui sont partis à l'autre bout du monde. Il y a aussi de la fidélité dans tous les sens. Et donc, ce premier défi, je pense que c'est la pérennité, la fidélité. Pérenniser la famille, ça ne veut surtout pas non plus dire la sacraliser, parce qu'il y a eu ce défaut. une société qui n'est pas très ancienne faisait de la famille quelque chose de complètement sacré. Il fallait se dévouer à sa famille. Alors là, ça brisait quelquefois des vocations.
Ça donnait quelque chose de fermé.
Parce que c'était la famille qui était passée largement au-dessus des individus. Alors je pense que c'est le rapport entre bien commun et bien particulier. Hein, et le bien commun de la famille, il est très important pour le bien particulier de chacun. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens que ces défis-là, aujourd'hui, sont là-dessus, à mon avis, sur la place aussi de chacun dans la famille. Donc, il faut que la famille se renforce dans le sens de tout ce qu'elle doit apporter de sain à tous ses membres, quel que soit leur âge. Il faut penser aussi aux grands-parents, il faut penser à tout ça. Mais en même temps, une éducation à la liberté. Voilà, parce que quand la famille bloque l'individu parce qu'il n'y a plus de liberté, ça, c'est créer un petit... vous savez, le pater familias, quoi. Ça, ce n'est pas l'idéal de la famille.
Oui, parce qu'à un moment donné...
Et ce n'est pas l'idéal chrétien, surtout pas, parce qu'on pense que cette famille-là, un peu bourgeoise, ou le père et tout, etc., ça, ce n'est pas l'idéal de la famille dans l'Évangile, pas du tout.
Oui, que la famille ne soit pas étouffante, mais il faut aussi qu'elle soit émancipatrice à un moment donné.
Absolument, et c'est là qu'intervient la liberté, comment se construit la liberté de chacun, voilà.
Rêve des jeunes. Pourquoi parlez-vous de rêve des jeunes s'agissant de la famille ?
Eh ben parce que
vous avez affaire souvent à des jeunes.
Oui, parce que quand on voit beaucoup de jeunes sont dans des familles en difficulté. Les parents se sont séparés, ils ne voient plus leurs frères et sœurs. Il y a tous ceux qui sont dans des familles reconstituées, on dit recomposées. Alors c'est des demi-frères, des demi-sœurs. Il y a des gens qui ne sont même pas ni frères et sœurs, mais qui vivent dans une même famille. Donc cet aspect un peu délité de la famille, les jeunes, ils en souffrent. Et pourtant, c'est parce qu'ils en souffrent en même temps qu'ils ont le désir. Et ça, ils se remettent tous à fonder des familles. Alors, la famille peut être malade et attaquée, en même temps, plus que jamais désirée. Et les jeunes disent ça. Ils disent, moi, j'y crois. Moi, si je me marie, ce sera pour la vie. Alors après, ils ne sont pas naïfs. Ils savent que ça va être difficile. Ils ont des contre-exemples nombreux. Mais c'est curieux qu'il y ait en eux toujours ce désir de fonder une famille et de la fonder avec de la fidélité. Voilà, ils croient à une certaine pérennité. Enfin, ils pensent en tout cas que c'est ça le bonheur. Et ça, c'est les sondages qui le disent aussi. Quand on parle de bonheur, tout de suite, paf, c'est famille. Ce n'est plus le travail, ce n'est plus la patrie, ce n'est plus tout ça. Voilà.
Est-ce qu'ils sont très conscients de ce que c'est ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne l'idéalisent pas trop ?
Ben, bien sûr, certainement. Et elle sera toujours idéalisée, la famille. Oui. Moi, je dis sacralisée, c'est un peu le même mot, c'est ça. Oui, elle sera sacralisée toujours. Et moi, je lutte contre ça. Parce que c'est un moyen, en fait. La famille, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen.
Et c'est-à-dire, c'est une fondation, une espèce de rampe de lancement pour se projeter plus loin, pour se projeter ailleurs.
C'est ça, je parlais
d'émancipation.
C'est la coque, mais non pas le cocon, et qui est nécessaire à ce que le fruit se développe. Un fruit se développe dans une peau, il a besoin d'être protégé. C'est dans ce sens qu'il est nécessaire, mais après ça, le fruit, il faut qu'il donne la vie. Dans la famille, il y a l'amour et il y a la vie. Voilà, c'est les deux points concrets. Hein.
Vous abordez un sujet qui est fondamental, et là on est vraiment, je pense, en lien avec l'actualité. Dans quel but et par quels moyens la voit-on évoluer, la famille, à l'ère numérique ? Est-ce que les écrans cloisonnent de plus en plus la vie de famille et la communication entre ses membres ? Et ça, vous avez des témoignages qui vous le montrent de plus en plus ?
Oui, alors ça c'est une vraie question. Mais ce n'est certainement pas pour condamner les écrans, cette technologie qui apporte...
C'est la question de l'utilisation qu'on en fait, bien sûr.
Exactement, donc c'est toute l'utilisation qu'on en fait. Si c'est au service de meilleures relations, je pense à WhatsApp, par exemple, qui est une invention extraordinaire dans les familles. Chaque famille a son petit WhatsApp. Les familles Léo, il y a des moyens comme ça qui sont donnés par l'ère numérique, qui sont tout à fait au service de la famille. Et puis d'autres, quand c'est simplement parce qu'on ne s'interdit pas tout simplement de poser son écran pour parler tranquillement avec l'autre et qu'on est à table en train de regarder son portable, qu'on passe toute sa soirée chacun dans sa chambre avec sa série ou sa tablette, etc. Là, on voit que l'esprit de famille en prend un coup.
Ah, vous parlez de ces familles qui sont éclatées au sens, il y a certains de ces membres sont parfois très loin, hein, sur d'autres continents.
Oui.
Effectivement, là, les réseaux sociaux sont très précieux pour maintenir le lien.
Voilà.
Et un lien qui peut être quotidien.
C'est ça. Voilà. C'est tout l'enjeu dans la famille, c'est de faire du proche. En même temps, il faut savoir être le lointain. Alors, le numérique, c'est en plein là-dedans parce que ça rend lointain ce qui est proche et ça rend proche ce qui est lointain.
On va faire une pause dans cette émission et on va reprendre après avec vous, Michel Martin-Prével, parce qu'il y a d'autres aspects qui sont abordés dans votre conférence. Avant de vous retrouver tous les trois, on va faire une pause avec Françoise Hardy qui nous a quittés la semaine dernière. Vous parliez de l'amour dans les familles. Il y a quelque chose qui relie aussi, je pense, tous les hommes et toutes les communautés. C'est l'amitié. On va écouter cette belle chanson qui a pour titre « L'amitié ».
« Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors, peut-être, je viendrai chez toi chauffer mon cœur.
Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la seconde partie de ce numéro de Vivante Église, toujours en compagnie d'Agnès Arter, membre de l'organisation de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, de Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et du père Michel Martin Prével, membre de la communauté des Béatitudes. Alors je ne vous ai pas posé la question, mais pourquoi vous vous intéressez à ce point à la famille? Il faut dire que vous-même, vous avez été marié, vous êtes père et grand-père, et vous êtes rentré après dans la communauté des Béatitudes.
J'ai la chance aussi de vivre dans une famille de 9 enfants, où il s'est passé beaucoup de choses, et une famille très riche. J'ai reçu beaucoup de cette famille d'origine. Ensuite, j'ai aussi moi-même fondé une famille pendant 32 ans. J'ai 3 enfants, puis j'ai maintenant 7 petits-enfants. Voilà. Et puis je suis dans une communauté aussi où la famille n'est pas rien, puisque c'est une communauté où il y a aussi bien des religieux, des religieuses que des laïcs et des familles. Voilà. Et puis c'est vrai que comme prêtre maintenant, depuis 14 ans, je me suis beaucoup intéressé aussi bien sûr aux familles. Je vais souvent les rencontrer dans des rencontres, des pèlerinages, etc., des festivals de famille. Et puis je m'occupe surtout beaucoup de couples, parce que c'est pour moi le pivot de la famille. Une famille est sainte, elle est bénie, elle est bonne, elle est heureuse quand le couple est heureux. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les difficultés de couple, avec le parcours Toby et Sarah que j'ai fondé il y a 12 ans.
Donc il y a souvent des couples qui viennent vous solliciter lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'il y a des conflits, des incompréhensions, des tensions.
Oui, c'est l'essentiel de mon travail. Je prêche des retraites de couple, j'ai le parcours Toby et Sarah, et puis j'accompagne beaucoup de couples aussi dans la durée. Je dois dire que je vois des belles choses aussi. Pas toujours, mais je vois des couples qui ressuscitent. Il faut savoir que ça se passe.
Un des sous-thèmes là, dans votre conférence, c'est « La famille est-elle irremplaçable pour soutenir la vocation de chaque personne dans une tension, liberté, dépendance féconde ?» On en revient à ce qu'on disait au début, arriver à trouver l'endroit où il faut placer le curseur pour être à la fois un soutien, une protection, mais aussi, vous le disiez, cette espèce de base qui permet à l'autre, après, de s'envoler vers ce qui doit être sa destinée.
Oui, c'est un peu un porte-avions, hein, une famille. Ça veut dire qu'on ne doit pas y rester, il faut s'envoler. Et surtout, si c'est très fort au début, quand l'enfant est tout petit, il a énormément besoin de son cadre familial. Et puis progressivement, justement, il y a la place à la liberté de la personne, il y a sa vocation propre. Et dans les familles, on a trop la vocation pour les autres, alors qu'il faut vraiment favoriser ça. Mais c'est souvent parce que dans une famille, on a été construit sur des valeurs un peu essentielles que cette vocation peut apparaître et qu'on en arrive à son tour, soi-même ensuite, d'assumer une famille ou une autre vocation. Et donc, c'est une progression. Voilà. Et c'est pour ça que je dis souvent que la famille doit mourir parce qu'elle n'a de but que pour ça. C'est une espèce de serre où les plantes se développent et après ça, pof, on va les mettre dans le grand champ de l'humanité. Donc ce n'est pas un en soi, encore une fois, ça peut pas être... Il n'y a pas de finalité, sinon que c'est la finalité, c'est de faire grandir des personnes et les donner aux autres.
Toutefois, on traverse des épreuves dans une vie, on peut avoir besoin à un moment donné, si ce n'est peut-être du refuge qu'est la famille, en tout cas de l'appui qu'est la famille. Donc il faut qu'elle reste ça de toute façon.
Absolument, parce qu'on peut être adulte, passer par des épreuves de santé, de chômage, etc. Et souvent c'est là aussi que les solidarités familiales peuvent être des compléments très judicieux à ce qui existe par ailleurs, ce qu'assure l'État en principe. Et c'est comme ça que l'État sert la famille. Moi je trouve qu'il ne la sert pas assez, mais enfin il la sert, heureusement. Mais ce n'est pas suffisant et on voit bien aujourd'hui qu'il faut ce complément important de la solidarité familiale parce qu'il y a une autre saveur quand même. Il y a une autre... Ce n'est pas la même chose que toucher un chèque. Être aidé par ses parents, un frère, c'est autre chose parce que justement la valeur de la famille va y mettre de la gratuité, va y mettre de la bienveillance qu'on n'a pas toujours dans un service social, bien sûr.
Quelles sont sa part naturelle et sa part surnaturelle? Ça, c'est le dernier sous-thème de votre conférence. Ça mérite quelques explications.
Alors, c'est surnaturel parce que c'est dans le plan de Dieu. Je dirais que l'humanité a commencé avec une famille. Voilà, c'est forcément. Donc, c'est dans le droit naturel. C'est s'abord du droit naturel. Mais derrière le droit naturel, il y a quelque chose qui a été imprimé par la pensée de Dieu. Bon, c'est pour ça que nous, chrétiens, nous en connaissons la source, qui est Dieu. C'est même la Trinité, c'est pas rien. La Trinité, c'est en soi une famille. C'est une chose qu'on découvre depuis pas longtemps, que la Trinité est une famille. Mais ensuite, c'est bien entendu dans le concret de chacun que la famille, c'est une expérience que chacun peut faire, même quand on ne croit pas en Dieu, bien entendu. Et la famille, ça existe dans toutes les cultures, comme dans toutes les religions. Voilà.
Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qui ne seraient pas chrétiens, qui ne seraient pas croyants, qu'est-ce que peuvent apporter une optique, un regard chrétien dans les relations des membres d'une famille ?
Alors c'est en soi la famille est missionnaire dans ce sens-là parce qu'il y a quelque chose qui parle de Dieu dans le fait que l'on s'aime ensemble. Bon, ça c'est le fondement de la révélation chrétienne, c'est que Dieu est amour. Mais Dieu est amour dans ce qu'il se montre de cet amour et il se montre particulièrement justement dans la vie du couple et aussi dans la vie de la famille. Donc c'est comme implicite, c'est implicitement que la famille est un foyer d'évangélisation. Non pas qu'il faille évangéliser les familles, il faut le faire, mais on découvre, c'est l'intuition du pape François avec Amoris Laetitia, c'est que la famille est une petite église en soi et qu'elle est justement source de révélation d'amour de Dieu. Dans ce sens, elle est donc très missionnaire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Église cherche à remettre les familles dans le champ de l'évangélisation parce qu'elles sont elles-mêmes source de l'Évangile.
Voilà, donc la conférence de Michel Martin Prével, La famille fragile et indispensable, c'est mercredi 28 juin de 15h à 18h. Eh bien, on va passer à Marie-Christine Monnoyer qui, elle, va animer en binôme la dernière conférence de l'Université 2024. Vous lui avez donné pour titre « Le travail en France en 2024, une situation ambiguë et contrastée ». Que cache-t-elle ? Donc c'est à 19h30. Vous la co-animez avec Hervé Pinard, qui est syndicaliste à la CFDT. En quoi la situation du travail, ou plutôt du rapport des Français au travail, parce que c'est peut-être ça en fait la vraie question, est-elle contrastée aujourd'hui ?
Elle est contrastée parce que la plupart des gens ont envie de travailler, besoin de travailler, et pour autant, ils sont aussi régulièrement mécontents de ce qu'ils font, où ils le font et comme ils le font. Donc on a quelque chose qui peut apparaître comme un véritable contraste. Si on n'a pas de travail, ça ne va pas. Si on en a, ça peut aller ou ça ne peut pas aller. Donc il faut comprendre, il faut essayer de réfléchir à ce que je considère comme une ambiguïté. Un vrai problème, aussi bien pour tous ceux qui travaillent, les salariés, les non-salariés, etc. Mais aussi pour les entreprises et quelque part pour le pays. Quand le travail ne va pas, en fait plus rien ne va dans la société. Donc, toutes les difficultés qui sont annoncées par les salariés, enfin ceux qui travaillent, je ne veux pas faire la différence, comment est-ce que les entreprises les prennent en compte ? Comment l'État, en légiférant, les prend en compte ? Est-ce que ça répond aux attentes ? Et ce, quel que soit l'âge des gens. Parce que vous avez forcément entendu qu'il y a une modification du rapport à l'emploi de la part des jeunes générations. Je ne dis pas au travail, je dis à l'emploi. Est-ce qu'il faut que je travaille tout le temps? Est-ce que je peux m'arrêter de temps en temps? Est-ce que quand je ne suis pas content, je dégage et je reviendrai plus tard? C'est une question que se pose beaucoup plus la jeune génération que les plus anciens, pour lesquels c'était un peu une évidence. Donc il y a des évolutions sociologiques aujourd'hui qui doivent aussi être prises en compte. Et si elles ne le sont pas, plus rien ne marche, parce que les entreprises se disent « mais je ne peux pas trouver des salariés, personne ne répond à mes appels ».
Des secteurs effectivement qui ont énormément mal à recruter.
Et quand vous dites des secteurs, c'est des secteurs avec plein d'ess.
Oui.
On n'a pas de professeurs des écoles, on n'a pas de menuisiers, on n'a pas de plombiers, on n'a pas de toubib. Et on se dit « quel est le lien ?» entre le fait qu'on ne trouve pas de professeurs des écoles, et qu'on ne trouve pas de médecins, et qu'on ne trouve pas de plombiers, c'est un peu compliqué. Donc, on a voulu, avec Hervé, creuser ces questions. Et si je travaille en binôme, comme vous l'avez dit, avec un syndicaliste, c'est évidemment pas pour rien. Moi, je suis professeur, donc, comme le disait Agnès tout à l'heure, je suis théoricien ou théoricienne. Et même si, étant professeur en sciences de gestion, j'ai passé beaucoup de temps à aller regarder ce qui se passe dans les entreprises, je ne le regarde pas comme le syndicaliste. Et par ailleurs, je suis professeur, donc je travaille dans une organisation. J'ai travaillé longtemps à l'Université Toulouse-Capitole. Maintenant, je travaille à l'Université catholique. Ce sont des organisations dans lesquelles les gens travaillent. Ils sont contents, ils ne sont pas contents, on les retrouve, etc.
Oui. Alors, la question du mal-être au travail, on parle de souffrance au travail, moi je préfère parler de mal-être, est ancienne.
Vous pouvez parler de souffrance.
Mais pour certaines personnes, ça se traduit par une souffrance. Le mal-être est déjà une souffrance de toute façon. Moi, j'en entends parler, pour ma part, depuis déjà au moins 15 ans. Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis? Est-ce que ça a été pris en compte dans les entreprises et dans le monde du travail en général?
Alors, c'est une bonne question que vous posez. Vous avez dit que vous en entendez parler depuis 15 ans. Moi, pratiquement, le premier papier que j'ai écrit sur la souffrance au travail, c'était il y a 15 ans. Donc, c'est un sujet rémanent. C'est un sujet rémanent, ce qui veut dire que a-t-il été maltraité, bien traité, par aussi bien les entreprises que le politique? C'est une bonne question. En fait, il a été traité, mais pas suffisamment. Et je fais exprès de dire pas maltraité, mais pas suffisamment, pour des raisons extrêmement simples. C'est que depuis 15 ans, comme vous le savez, le monde a changé. Le monde a changé, par exemple, par l'introduction massive du numérique. Le premier papier que j'avais écrit sur la souffrance au travail, il portait sur les activités de service et l'impact du développement du numérique dans les activités de service sur des difficultés extrêmement lourdes vécues par les salariés des activités de service. Donc le numérique a changé la donne et dans certains cas, les entreprises n'ont pas voulu voir que cela allait se traduire par des difficultés profondes par les salariés. On a bien vu que si on ne savait pas servir d'un ordinateur, c'était embêtant et qu'il valait mieux apprendre. Mais derrière le « j'apprends à me servir de Word et d'Excel », il y a aussi autre chose. Il y a le fait que le travail va plus vite. Il y a le fait qu'on ne travaille plus de la même façon. On ne travaille plus avec les mêmes personnes. Et ça, ça a été souvent mal anticipé et on n'a pas vu les conséquences. Donc là, c'est une des premières modifications. Et puis, comme vous le savez aussi, il y a eu la mondialisation. La mondialisation, elle s'est traduite par le fait que dans les entreprises, on allait travailler non plus uniquement sur place, dans une usine qu'on connaissait bien, dans des bureaux qu'on connaissait bien, mais avec des gens qui étaient à l'autre bout du monde. Et pour travailler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, eh bien, l'encadrement a été mis ailleurs. Parfois à l'autre bout du monde, parfois sur place, mais étant connecté avec l'Inde, les États-Unis ou la Chine, comme vous le savez, c'est pas la même heure. Et donc, les cadres responsables de l'organisation du travail, ils sont devenus des cadres relativement absents. Ils ont été des cadres désincarnés.
J'allais utiliser le mot virtualisé. Est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de virtualisation des relations au travail, notamment avec la hiérarchie?
Alors, il y a une certaine virtualisation. Moi, j'aime mieux le mot désincarné. Parce que, au fond, c'est pas tellement différent. Quand on est virtuel, on est un peu désincarné. Mais ça veut dire que la relation humaine qui s'incarne, et en particulier chez les chrétiens, la relation humaine, elle s'est distendue. Et surtout, les hiérarchies se sont élargies dans l'espace et dans l'espace géographique. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire économique, que ce soit au lycée ou à l'université, ils se souviennent que lorsque Taylor, aux États-Unis, et le Fordisme a été créé dans les usines automobiles, on a parlé d'une différence entre le travail qui était prescrit par les ingénieurs et donc par M. Taylor, eh bien, est-ce qu'il correspondait effectivement au travail vécu par les gens qui étaient sur la chaîne ? Cette distinction entre le travail prescrit et le travail vécu, c'est une des sources extrêmement lourdes de la souffrance au travail, du mal-être au travail. Et le meilleur exemple, c'est celui qu'on connaît dans les activités, par exemple médicales ou dans les EHPAD. Savez-vous peut-être que dans une EHPAD, le temps qui est destiné à la toilette d'une personne, c'est 8 minutes. Ça a été calculé et donc c'est 8 minutes. 8 minutes, c'est pas beaucoup et c'est comme s'il ne se passait rien d'autre que de s'occuper de la toilette. Si la personne qu'on vient de laver, qu'on vient d'aider à faire sa toilette dans la salle d'à côté, se met à vomir parce qu'elle n'est pas bien, eh bien, la première chose à faire, c'est de laisser celle qu'on est en train d'en s'occuper pour aller s'occuper de celle qui vient de vomir. Et alors là, le travail prescrit, c'est quoi ? Eh bien, il éclate. Et cette différence entre le travail prescrit et le travail vécu, et le travail réel, est un point extrêmement important pour comprendre les difficultés, la souffrance, le mal-être. Mais c'est vrai aussi bien dans une industrie que c'est vrai dans les activités de service. Je prends celle-là parce que c'est plus facile, mais c'est vraiment extrêmement fort. Alors, comment on fait ? En fait, on peut réfléchir. Et il y a des solutions, mais il faut décider qu'on va les réfléchir. Et ce qui est intéressant, et en particulier en travaillant avec un syndicaliste, c'est que lui, il a des idées sur ce qu'il faut faire pour que cette ambiguïté, ce contraste et surtout les difficultés qui sont vécues, eh bien, elles soient surmontées. Moi, avec ce que je lis dans la théorie, dans les analyses, ce que je vois à tel ou tel endroit, eh bien, je peux proposer des solutions. Certains vont dire, oui, mais ça, c'est de la théorie. Vous savez, c'est souvent la théorie qui inspire la pratique.
Qui précède la pratique.
Oui. Voilà, il faut réfléchir un peu avant. Et en fait, on voit dans certaines organisations que la théorie a très largement proposé des pratiques.
Alors, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, mais je ne suis pas le seul à le penser, qui a changé aussi un peu la donne, c'est la période dite du Covid et les confinements. Est-ce que ça n'a pas changé aussi la relation qu'avaient les gens, les jeunes, mais aussi des gens qui sont beaucoup plus avancés dans l'âge, la relation qu'ils avaient avec le travail, avec leur lieu de travail, avec leurs collègues? Est-ce que certains ne se sont pas rendus compte, mais je passe à côté de beaucoup de choses dans un travail qui finalement ne me rend pas heureux? Est-ce que ça aussi, ça n'a pas changé un petit peu la donne?
Bien sûr, ça a changé la donne. Ça a changé la donne parce que d'abord, on s'est aperçu qu'on pouvait travailler autrement. Donc en fait, on a expérimenté d'autres formes de travail, avec leurs aspects positifs et leurs aspects négatifs. On s'est bien sûr rendu compte qu'en fait, le travail distant n'était pas aussi, le télétravail n'était pas forcément aussi critiquable qu'on l'avait pensé en parlant des managers désincarnés. Donc, on s'est rendu compte de ça. Et que cela diminuait le temps de transport. Si vous gagnez une heure et demie par jour, c'est quand même pas négligeable. Et puis, la fatigue correspondante, parce que se déplacer une heure et demie par jour, c'est fatigant. Et puis, ça permettait aussi, à certains moments, d'être extrêmement précis dans son travail, parce qu'on n'est pas perturbé par tel ou tel point, etc. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait souvent travailler plus vite. Donc, on avait, en fait, le temps contraint sur l'ensemble de la journée était plus court et ça n'empêchait pas de travailler plus vite et parfois d'être plus efficace. Mais on s'est aussi rendu compte que c'était bien gentil de rester à la maison avec toutes les difficultés.
Il peut y avoir des enfants qui peuvent être eux-mêmes perturbants.
Etc. Mais qu'on avait besoin des autres. Vous voyez, hier, c'était l'Assemblée Générale de l'Institut catholique. Et après l'Assemblée Générale, il y avait un pique-nique. À l'occasion de ce pique-nique, j'ai rencontré 5 personnes. Je m'étais dit, ils seront là et j'irai les voir. Tout en mangeant un petit sandwich et une glace à la vanille, eh bien, j'ai travaillé et imaginé des rencontres et eu des idées complémentaires parce que j'avais le temps, en étant en face à face, de rencontrer les personnes. Eh bien, ce temps de présentiel, il est aussi fondamental. Donc, on en a extrêmement besoin. Et les gens qui considèrent qu'on peut travailler tout le temps à distance, etc., je crois que c'est une fausse bonne idée.
Oui, alors effectivement, ça a donné lieu à des appréciations très diverses, cette histoire du télétravail après la période post-Covid. Certaines entreprises y sont passées, d'autres ont testé puis sont revenues en arrière. Donc je crois que vous avez raison, il faut regarder ça avec beaucoup de distance et beaucoup de recul. Est-ce que, au-delà du monde du travail et de l'entreprise, c'est pas toute notre société qui est de plus en plus anxiogène et qui crée du mal-être et de la souffrance, ce qui se répercute au travail, ou est-ce que c'est le fait qu'on ne soit pas bien au travail qui fait que la société va mal? On peut se poser cette question aussi.
Alors, en fait, j'ai pas envie de vous suivre sur ce point. J'ai pas envie de vous suivre sur ce point parce que je trouve que les lieux de travail, les formes du travail sont aussi extrêmement anxiogènes. Si je vous dis qu'il y a 750 000 accidents du travail chaque année, en 2023, il y a eu 750 000 accidents du travail en France, si vous voulez quelque part, rien que ça, c'est extrêmement anxiogène. Si je vous dis qu'on a aussi eu 661 morts sur le lieu de travail, dont 37 suicides, quelque part, je trouve que c'est extrêmement anxiogène. Donc ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment le travail peut être lui-même anxiogène. Bien sûr, il y a l'extérieur.
Mais c'était ma question. Ma question, il faut la prendre dans les deux sens. Quelle est la poule et l'œuf, hein, si je peux m'exprimer ainsi?
Parce que cette organisation du travail, à partir du moment où, de facto, de temps en temps, trop souvent, le travail tue, trop souvent, le travail blesse, quelque part, ça va conduire certaines personnes à se dire « Bon, je vais quand même pas passer ma vie, et en particulier dans certains métiers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs, puisque je suis prof, qui meurent sur les lieux de travail, mais il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans le bâtiment qui meurent sur les lieux de travail, donc je fais bien la différence. » Eh bien, ça, il faut que on le réfléchisse, parce que, évidemment, pour certains, ça va être piano bassano. N'allons pas trop loin, ne nous donnons pas corps et âme à une entreprise qui, peut-être, va me conduire à être en burn-out ou à casser ma pipe sur le lieu de travail.
Et oui, c'est pour ça que je disais que c'est peut-être parce que le monde du travail est anxiogène que voilà. La société l'est devenue aussi et qu'on se sent mal, non seulement au travail, mais même en dehors. Agnès Arter, avant de terminer, vous vouliez préciser quelque chose concernant la possibilité de s'inscrire avant d'aller à cette université chrétienne, la 16e, à Castanet.
Oui, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, mais cela aide l'organisation. Donc, un petit message sur notre mail ou un petit message sur le contact situé en bas du menu sur le site, nous facilitera la tâche et nous serons heureux de vous y accueillir.
Et voilà, ça va mieux en le disant. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Je rappelle que la 16e Université chrétienne d'été de Castanet a lieu les 26, 27 et 28 juin à la Maison de la Fraternité de Castanet-Tolosan. Elle a pour thème cette année une humanité des communautés. Il y a deux conférences chaque jour à 15h puis à 19h30. Le programme des trois journées est disponible sur le site www.ucec-castanet.com et vous pouvez vous y inscrire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à cette émission. À la semaine prochaine.